Bonjour, pas facile de présenter l'invité que nous avons le plaisir de recevoir dans ce nouveau numéro d'Idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Lui, c'est sûr, pense le monde depuis des décennies. Est-ce un intellectuel, un professeur qui s'est égaré tout en s'y épanouissant ô combien dans le journalisme? Ou est-ce un journaliste qui, n'ayant pas la vocation, a toujours voulu être reconnu dans le monde des penseurs, souvent peu accueillants? Notre invité est Jean-François Kahn, que je vais donc présenter comme journaliste et essayiste, auteur d'une quarantaine d'essais, c'est une présentation minimale. On pourrait aussi dire mélomane, grand amateur de chansons. Bouillonnant, épris de culture, farouchement indépendant, notre homme n'a jamais voulu se laisser enfermer dans des idées, des rédactions, des clans, du genre à être de gauche avec des gens de droite et de droite avec des gens de gauche, pour finir au centre, fuyant les explications binaires en tout cas et la pensée unique qu'il a d'ailleurs étudiée. Il a fini par se dire que pour être tranquille, si j'ose dire, libre en tout cas, il fallait mieux créer ses propres journaux, ce qu'il a fait avec l'événement du jeudi, puis avec Marianne. Il vient d'écrire des mémoires, précisément le premier tome de Mémoires d'outre-vie. Nous allons en parler dans ce magazine que vous pouvez aussi retrouver sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio pour l'écouter quand vous le souhaitez. Vous pouvez également vous y abonner. Bonjour Jean-François Kahn.
Bonjour.
Je suis heureux de vous recevoir. Vous nous livrez donc 500 pages savoureuses qui s'arrêtent au tout début des années 80. Ce livre sera suivi d'un autre tome où vous raconterez l'après années 80, donc la création de vos journaux. Dites-moi, vous commencez vos mémoires en disant que vous n'avez pas de mémoire sauf celle des images et des sons. Qu'est-ce que ça serait si vous aviez de la mémoire? Yes. Ce livre fourmille d'anecdotes, de souvenirs, de...
Oui, mais c'est toujours lié à un son, à une image, à une phrase. J'ai pas la mémoire, et d'ailleurs, je pense que personne, là, il y a un trucage. J'ai pas la mémoire d'un discours. Si je parle une heure avec quelqu'un, je peux pas, au bout de 20 ans, je me souviens absolument pas ce que cette personne a dit. Ce qui fait que, par exemple, quand j'étais tout jeune, j'ai eu une conversation très longue avec Albert Camus. C'était sur le mythe de Don Juan, je me souviens le thème, mais je me souviens de rien. C'est pas la peine, je pourrais inventer, mais c'est bon. D'autre part, j'ai eu Malraux qui m'a expliqué les tableaux. Enfin, figurez-vous que j'étais en situation, parce que j'avais accompagné Hassan II au Louvre, où c'est pas nous qui se baladions dans le musée du Louvre pour voir les tableaux, c'est les tableaux qui étaient roulés devant nous. Vous vous rendez compte? Vous êtes assis dans un fauteuil et c'est le musée qui défile devant vous. Ça, faut l'avoir vécu. Et c'est Malraux qui commentait. Bah, je pourrais naturellement lire les livres de Malraux et reconstituer ce que Malraux disait sur les tableaux. Mais ce serait pas honnête. En fait, je me souviens de rien, absolument de rien, de ce qu'a dit Malraux sur les tableaux. Ce dont je me souviens, c'est qu'à la fin, la tête de Hassan II, quand il a compris que Malraux n'avait pas choisi la Joconde. Il n'avait pas sélectionné la Joconde. Lui, il n'y a que ça qui l'intéressait, c'est la Joconde. Alors, il s'en foutait. Donc, j'ai vraiment son visage extrêmement déçu. Il n'y avait pas la Joconde.
Alors, vous donnez le ton de vos mémoires avec ce souvenir. Il y en a mille autres. Mais souvent, on vous dit, j'ai rencontré tel ou tel. Je me souviens du lieu, je me souviens de son visage à la limite, mais je ne me souviens pas du tout de ce qu'il a dit.
Bah oui, c'est ce que je vous dis, les discours. Et encore une fois, moi je crois que les gens qui prétendent se souvenir reconstituent, racontent des blagues. Mais enfin, moi c'est vrai, je me souviens pas des discours, mais je me souviens des phrases. Par exemple, surtout il y a des phrases qui pour moi sont restées parce que il résume une situation. Mais vous donnez un exemple, au moment de Septembre Noir. J'avais couvert ces événements et à un certain
donc
moment
le massacre de Palestiniens en Jordanie au début des années 70
entre les Bédouins et les Palestiniens et j'étais arrivé en voiture et dans la voiture parce que c'était quand même une situation très tendue on avait un fusil et ce fusil au bout du fusil il y avait un silencieux bon et alors il y a un groupe de Palestiniens qui nous arrête. Le fait qu'il y ait un fusil les choque pas du tout, mais il se dit, mais qu'est-ce qu'il y a au bout du fusil? C'est quoi ce truc? C'est quoi? Il dit, c'est un silencieux. Il dit, quoi un silencieux? C'est quoi un silencieux? Ben, je dis, c'est pour tirer sans faire de bruit. Il me regarde ahuri. Il se retire avec le fusil et le silencieux. Ils font un essai. Il revient et le chef me dit cette phrase qui, à mon avis, résume tout le problème palestinien. mais à quoi ça sert de tirer si ça fait pas de bruit? Pour moi, c'est tout le problème. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est qu'est-ce que le populisme? J'étais en Argentine et je couvrais une manifestation des jeunes péronistes. Bon, il y avait de tout. Et parmi leurs slogans, pour ceux qui parlaient espagnol, il y en avait un qui est « Las bolas del general son tesoro nacional », c'est-à-dire « Les couilles du général sont un trésor national ». Et je trouve que cette phrase-là symbolise le populisme.
Donc plein d'images, plein de souvenirs de ce genre qui ont un sens, qui disent effectivement beaucoup de choses, Jean-François Kahn. On va revenir en Jordanie tout à l'heure, quand on va parler du journalisme et de votre façon de voir le journalisme. Mais je voudrais que, parce que ce sont des mémoires, vous parlez également de votre enfance, évidemment de vous rendre hommage à votre père. Il y a de très belles pages sur votre père. C'est une enfance de boulimique de lecture que vous avez passée.
Oui, je m'en souviens plus beaucoup, mais il y a des gens qui m'ont connu à l'époque qui disent que je lisais beaucoup, mais je suis pas sûr que ça soit pas réinventé. Ah,
vous le dites en tout cas dans vos mémoires, vous dites qu'à une époque vous avez
tout lu. Ah, attendez, en fait. Pas l'enfance, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. Alors oui, là j'ai lu beaucoup. Oui oui. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je lisais surtout des illustrés parce que mon père m'interdisait de lire des illustrés. Donc évidemment, je me réfugiais chez un voisin où je pouvais lire Tarzan. Et
il faut préciser, Jean-François Kahn, que votre père avait une haute idée de la culture.
C'était surtout un intellectuel, mais qui poussait très loin l'intellectualisme. Et à la fois, il m'a, moi et mon frère et mes frères, ils m'ont influencé de façon considérable. Il m'a appris énormément. Mais il m'a influencé d'une autre façon, c'est son excès d'intellectualisme qui m'a amené à aimer la chanson, la chansonnette, l'opérette, les romans policiers ou les films de cow-boy. Ouais. Il m'a emmené voir des films en noir et blanc, muets, à la Cinémathèque. Je peux vous dire que grâce à ça, ou à cause de ça, j'ai jamais raté des films du genre Pouic Pouic, Le Triporteur,
<Vous avez raison. rire>
La Grande Vadrouille, c'est tout.
Et il faut préciser aussi qu'il vous a donné le goût de la philosophie. On parle souvent de philosophie dans cette émission. C'est quelque chose qui ne vous a jamais quitté, ça.
Hein, oui, bah, ça, c'est son influence. Mais ça a été son influence. Mais moi-même, parallèlement à mon travail de journaliste, ou même avant, j'ai beaucoup travaillé sur des sujets philosophiques. Surtout quand j'ai commencé à être journaliste, j'ai voulu réfléchir sur le problème de la vérité et du mensonge, sur la réalité, sur le réel et l'apparence. Enfin, tout bon. Et j'ai vraiment beaucoup lu, beaucoup travaillé ces sujets, en particulier ce que le structuralisme apportait. Mais en même temps, j'étais totalement paralysé parce que j'étais pas universitaire. Et je savais que dans un pays comme la France, ailleurs non, un pays comme la France, chacun doit avoir sa case. Mmh. Vous êtes chanteur, vous êtes chanteur. Vous êtes pharmacien, vous êtes pharmacien. Vous êtes journaliste, vous êtes journaliste. Vous êtes philosophe, vous êtes philosophe. Bah, vous êtes journaliste et je réfléchis à des sujets philosophiques. Ah non, vous n'êtes pas dans votre case, vous n'avez pas le droit. Donc je savais très bien. Et donc ça me paralysait. Ce qui fait que je travaillais sur des livres que j'ai fini sur le mensonge, sur l'évolution, etc., que je ne publiais pas. Et je publiais des livres de journalistes qui, entre parenthèses, n'avaient pas forcément beaucoup d'intérêt.
Si vous le dites. Et ça ne vous a jamais quitté, d'ailleurs, hein, le prolongement de la réflexion dans les livres pendant toute votre carrière de journaliste.
Ah oui, oui, bien sûr. Mais surtout sur ces sujets-là, quand vous êtes confronté à ça. Surtout que on en parlera peut-être, mais les journalistes, la seule profession qui continue à professer ce qu'on appelle le positivisme, c'est-à-dire cette idée que c'est vrai parce que je l'ai vu, parce que c'est perçu. Il y a en philosophie, il y a une phrase latine qui dit esse est percipi de Berkeley, c'est-à-dire être, c'est être perçu. Aujourd'hui, la science a montré que c'est pas vrai. On n'a jamais perçu l'énergie atomique. D'ailleurs, on ne perçoit pas du tout que qui c'est qui tourne autour du Soleil. C'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Ce qu'on voit. Ce qu'on perçoit, c'est le soleil qui se tourne autour de la Terre. Il va au zénith, il se couche, etc. Le fait que c'est l'inverse, on ne le perçoit pas. Donc, évidemment, toute la science a prouvé qu'il faut aller au-delà de la perception. Mais les journalistes, eux, en sont restés globalement à l'idée que, bah voilà, ce qui est vrai, c'est ce qu'on perçoit, ce qu'on perçoit est vrai. Sauf que c'est plus compliqué que ça.
Il faut essayer de changer de point de vue, effectivement. Votre premier éveil à l'actualité, votre éveil au monde, date, dites-vous, de 1955. Ça, c'est précis, vous aviez 17 ans.
Enfin, mon premier réveil au monde date en vérité, même si j'étais tout petit, de l'occupation. l'occupation et la libération.
Je parlais de l'intérêt pour la pour ce qui se passe dans le monde.
D'ailleurs, une anecdote, ouais. Je me souviens que en 45, quand il y a eu la libération de Paris, les communistes étaient très forts. Il y avait une manifestation, une grande manifestation, j'étais tout petit, où ils criaient, où ils scandaient des soviets partout. Vous savez, des soviets comme en Union soviétique, des soviets partout. Et moi, j'avais compris des serviettes partout. Et je trouvais que c'était une revendication extrêmement raisonnable, le fait que tout le monde ait des serviettes ou des torchons, qu'il n'y avait aucune raison. Donc, c'était... mais c'est vrai que mon ouverture réellement à la vie publique, ça a été 56. D'abord, cette chose inouïe, tous les gens qui le lisent me disent, mais c'est incroyable, ça s'est passé, c'est l'expédition de Suez. Alors que ceux qui nous écoutent ne sans doute majoritairement ne savent plus ce que c'est, mais je résume simplement, l'Égypte à l'époque avait une canal de Suez, il y a toujours le canal de Suez qui traverse l'Égypte.
Et bon. Il y avait Nasser, il y avait sa volonté de nationaliser
le canal. Et donc le chef, le Nasser, qui était devenu le chef de l'Égypte, un nationaliste militaire, décide de nationaliser le canal de Suez. Imaginez qu'en France vous avez un canal qui traverse la France et qui appartient à l'Allemagne, on l'aurait nationalisé depuis longtemps. En plus, c'était le canal de Suez appartenait à une société capitaliste qui piquait tout le pognon et les Égyptiens ils avaient rien quasiment. Bon, c'est logique. Nous on avait un gouvernement socialiste. Hein. Eh ben c'est ce gouvernement socialiste qui décide une intervention militaire contre le fait que Nasser a nationalisé une société capitaliste à travers le canal de Suez. Donc, c'est comme vous avez. Alors moi j'ai 16 ans, je viens d'avoir 16 ans, je suis tout petit et je vois tous les adultes. Tous ces grands politiciens qui se succèdent au pouvoir, qui sont ministres, et qui marchent là-dedans, qui disent c'est formidable, faut faire la guerre. Et j'ai dit, mais comment moi, qui ai 16 ans, je vois que c'est idiot, que c'est absurde, et eux, bon. Et finalement, c'était une catastrophe totale, absolument totale. Et donc, ça et la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie, en deux mots, je vais dire pourquoi. Parce que, on est quand même en 56, dire 11 ans après la libération. Mon père a été un résistant très, très, très affirmé depuis le début, depuis 40. De quoi on est nourri? On est nourri la Gestapo, la torture, le supplice de la baignoire, on a vu des choses là-dessus. Et tout à coup, je réentends ça. La torture, le supplice de la baignoire et des exécutions sommaires. Je dis, mais c'est incroyable, mais on m'a dit que c'était pas bien. On m'a dit que c'était horrible et tout à coup on revit ça. C'est ça aussi, c'est une chose que j'ai jamais oubliée. Ça a contribué à me façonner beaucoup.
Alors parlons de votre entrée dans le monde, dans l'univers du journalisme, Jean-François Kahn. Je vous cite, dans ses mémoires formidables. J'avais rêvé au fil des âges d'être capitaine de navire, commissaire de police, général d'armée, explorateur, archéologue, spécialiste en études de marché, d'être à la tête d'une entreprise exploitant la verticale du cochon, du boudin à la brosse à dents ou de la charcuterie à la godasse pur porc, j'en rêve encore.
C'est surtout ça qui m'obsédait.
D'enseigner la philosophie comme papa, d'être écrivain, un grand écrivain forcément, de contribuer à changer le monde, de conquérir la tribune parlementaire, d'être journaliste jamais. Aussi, en l'absence de feu sacré, n'ai-je nullement été, comme on dit, un grand journaliste, et c'est entre guillemets. C'est une coquetterie, ça, quand même.
Non, je le crois. D'abord, j'ajoute une chose, c'est que j'ai trois handicaps rédhibitoires, qui est que je ne sais pas taper à la machine. Le deuxième, c'est que je parle pas anglais ou très 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 mal anglais.
Et en plus, vous n'avez pas le permis de conduire.
Et j'ai pas de permis de conduire. Alors, le fait d'avoir pas permis de conduire m'a beaucoup aidé, en vérité. Ça m'a posé des problèmes, ça m'a beaucoup aidé. Parce que, du coup, quand j'étais dans un pays, je prends le train, je prends les transports en commun, et ça me permet d'être en osmose avec les populations. Si vous êtes toujours en voiture et que vous prenez jamais de train, de transport en commun, etc., quelque part, il y a quelque chose qui vous manque pour sentir le pouls de la population.
Et d'ailleurs, d'évidence, ce livre montre qu'on peut beaucoup, beaucoup voyager sans avoir le permis de conduire.
Ça, on peut. Alors, et sans savoir anglais. Alors, à l'époque, ceux qui nous écoutent vont en sont conscients. À l'époque, et c'est là, c'est dramatique, on pouvait aller partout, l'élite parlait français. À Athènes, tout le monde parlait français, au Caire, tout le monde parlait français, au Vietnam, tout le monde parlait français, etc. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. Voilà, c'est pas... Parce que je peux vous dire que couvrir la guerre du Vietnam en parlant latin, ça ne sert pas à grand-chose.
Certes. Certes, Jean-François Cannet. Mais cette entrée dans le journalisme est due au hasard, à Paris Presse.
Bah d'abord, je vous dis, je ne crois pas avoir été un grand journaliste, mais à part, bah d'abord, non, c'est ce qui m'a fait passer un échelon très vite, c'est que Paris Presse est un journal plutôt droite, très libre. Moi, je n'ai jamais été censuré, etc. Mais enfin, l'engagement était plutôt à droite. Et donc, les gens qui couvraient l'Algérie, la guerre d'Algérie, c'était le grand moment, c'était les vedettes, les grandes stars, c'était les reporters en Algérie. Or, ils étaient, parce que c'était l'orientation du journal de droite à l'époque, Algérie française, comme dit, pour l'Algérie française, pour le système colonial. Et quand le général de Gaulle a pris le tournant d'aller vers l'indépendance de l'Algérie, il y a eu un rappel à l'ordre. Quelque part, on a dit, il faut que vous preniez le tournant aussi, vous êtes quand même un journal plutôt gouvernemental, plutôt pour la droite. Bon. Et alors, du coup, ils se sont dit, mais on peut pas continuer à le faire couvrir par des gens qui sont engagés du côté, mais très engagés du côté Algérie française. Et alors, je me souviens, et moi, j'étais pour l'indépendance d'Algérie, j'étais pour la négociation avec le FLN et tout, je le cachais pas. Et d'ailleurs, ça les choquait pas. Du coup, je vois, moi, j'étais encore très jeune, hein. Donc, je vois tous ces gens personnages qui viennent vers moi, qui tout à coup, me disent, jeune homme, vous pourriez pas prendre le relais et aller couvrir les événements d'Algérie. Voilà, ça faisait comme ça. J'ajoute qu'il y avait un autre type qui, lui, était vraiment d'extrême droite. Et pour cette raison-là, ils lui disent, tu arrêtes de faire de la politique. Mais comme il l'aimait bien, comme il était quand même assez jeune encore, il l'aimait bien, il dit, tu vas faire une rubrique gastronomique. Le type, il gueule comme un putois. Comment? Un déshonneur terrible, la rubrique gastronomique et tout. Mais en fait, il s'appelait Henri Gault. Et avec Gault et Millot,
il va devenir
millionnaire grâce à ça.
Jean-François Kahn, je voudrais vous faire écouter la voix d'une grande dame du journalisme, François Giroux, qui évoque 1953, et le premier numéro d'un journal que vous avez connu également, le magazine L'Express. On lui demande ce qu'était la ligne éditoriale de L'Express, formule d'origine, quand le premier numéro est sorti. Écoutez-la.
L'Express a toujours eu une ligne parfaitement cohérente qui était le soutien de la politique de Mendès France, de la ligne politique de Mendès France. Le soutien et, à l'époque, le souci de mettre cette politique au pouvoir. Sinon l'homme, au moins la politique. Alors, qu'est-ce que c'était que la politique de Mendès France? C'était avant tout le redressement économique, puisqu'il considérait, à juste titre d'ailleurs, qu'il n'y avait pas de politique étrangère, il n'y avait pas de politique tout court sans redressement économique.
C'est toujours valable.
C'est toujours valable. Mais ça l'était tout particulièrement à l'époque. La France n'investissait pas du tout. On était empêtrés dans la guerre d'Indochine. Ce qu'il y avait de saisissant dans cette interview, si je me souviens bien, c'est qu'il parlait des investissements qu'il fallait faire en Afrique. C'était une Afrique qui était encore colonisée.
François Giroux, interrogé dans l'émission Le Bon Plaisir sur France Culture en 1987, qui parle de ce premier numéro du 15 mai 1953 et de la ligne éditoriale de L'Express au début. Je vous ai senti très attentif et très ému en écoutant François Giroux, que vous avez connu, vous étiez proche d'elle.
Oui, j'étais devenu, pas au début, quand je suis rentré, pour moi c'était quelqu'un de très lointain, mais je suis devenu très ami avec elle. D'ailleurs, quand j'ai pris la direction des nouvelles littéraires, je lui ai confié le bloc-notes. Donc j'étais son patron après. Et moi, je me souviendrai toujours d'une scène absolument incroyable. C'est que un jour, on était réunis, c'était le bouclage. On mangeait, il y avait une sorte de repas de bouclage. On était tous ensemble, on était autour d'elle. Et on lui amène la une du journal qui va sortir le lendemain. Et alors elle regarde et c'était sur le contrôle des naissances. Donc le titre, c'était « Comment ne pas avoir d'enfants ». Mais il se trouve que dans le même numéro, ils avaient les bonnes feuilles du livre De sang-froid. Et De sang-froid, vous savez qui est l'auteur?
Truman Capote.
Et donc, elle regarde Comment ne pas avoir d'enfant, elle est très contente de la une, et il y a un streamer spécial Truman Capote, spécial Capote. Ah, là, tout à coup, quand elle a vu, je l'ai vu son visage se durcir. Et naturellement, on a changé la une.
Alors, vous avez des pages extrêmement intéressantes sur L'Express qui vous a fait voyager un petit peu partout dans le monde.
Oui, enfin, j'avais voyagé avant. Le premier reportage que j'ai fait, c'était pour Paris Presse, c'était sur les conflits ethniques en Belgique. Mais comme j'avais couvert les conflits ethniques en Belgique, du coup, l'idée leur est venue de me faire couvrir les conflits ethniques au Congo belge. Et donc, j'ai là, voilà, une image, je me souviendrai toujours, de l'image de Lumumba arrêté, mis dans une espèce de camionnette avec une chemise blanche immaculée et avec ce visage magnifique. Et c'était le Christ. C'est, alors pour le coup, on l'a revécu avec Che Guevara, mais c'était le calvaire du Christ, quoi. Mmh. C'est quelque chose que je retiendrai toujours, cette image.
Alors vous avez une réflexion pertinente sur le journalisme, et là, ça va nous reconduire en Jordanie sur le travail de journaliste, sur le travail notamment du reporter. Expliquez-nous ça.
Non, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est cette idée, voilà, je l'ai vu, c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que j'ai vu que professent les journalistes.
Mais là, en Jordanie, vous étiez perdu dans les rafales, dans les
même avant les journalistes. Ouais. Vous donnez quand même un exemple. Moi, j'ai assisté en 67. J'assiste aux grandes manœuvres de l'armée égyptienne. Ben, les grandes manœuvres, c'est formidable parce que de toute façon, il n'y a pas d'ennemis. Donc, vous êtes très courageux. Les mecs, ils vont à l'assaut, ils hurlent, ils sont merveilleux. Ben, non, ils risquent rien. Mais moi, je me suis fait bluffer avec les chars qui dévalent. Et bon, je me suis dit quand même. Et donc, j'en ai déduit que s'il y avait une guerre avec Israël, elle serait longue. Je me doutais qu'Israël gagnerait, ça était dur, mais qu'elle serait très longue, très difficile. Bon, comme vous le savez, elle a duré 6 jours. L'autre exemple, c'est que je me suis retrouvé à Karlovy-Vary au moment des affaires tchèques. Et tout d'un coup, je vois Dubček et Brezhnev qui se précipitent dans les bras l'un de l'autre et qui s'embrassent sur la bouche. Bah, j'en déduis qu'il n'y aura pas d'intervention soviétique en Tchécoslovaquie. Dans les deux cas, je ne l'ai pas écrit. Donc, en l'occurrence, je pourrais même ne pas vous l'avouer. mais j'aurais pu me tromper. Et en ce qui concerne l'événement auquel vous faites allusion, il y a une guerre à Amman, une bataille, une guerre civile, une bataille de ville, entre les Palestiniens et l'armée du roi de Jordanie, Benoît. Tous les journalistes sont dans le seul grand hôtel de Amman.
Là, nous sommes en 1970, hein, au tout début des années 70.
Et les Palestiniens, des groupes palestiniens arrivent et bloquent tout le monde dans l'hôtel. Il se trouve que moi, j'étais sorti un quart d'heure avant parce que j'avais un rendez-vous. Et je me retrouve seul, quasiment seul, au milieu de la bataille. Donc, je pourrais dire, il n'y a pas d'autres témoins. Moi, j'ai vécu la bataille, je pourrais vous raconter, etc. Bon, très bien. Mais c'est quoi une bataille de rue, être au milieu d'une bataille de rue? C'est des gens cachés derrière un mur qui tirent sur d'autres gens cachés derrière un mur, et vous les regardez en étant cachés derrière un mur. Alors, il y a d'autres incidents, etc. Mais enfin, vous comprenez rien. C'est ce que Stendhal racontait sur la bataille de Waterloo. On comprend rien. J'ai rien compris. Trop je proche. Sais même pas qui avait gagné à la fin. Quand je retourne à l'hôtel, je vois les journalistes qui n'avaient rien vu. Mais eux, ils avaient écouté Radio Le Caire, Radio Londres, Radio Machin, Radio... Et c'est eux qui m'ont expliqué. C'est eux qui m'ont expliqué d'abord qui avait gagné et qui m'ont expliqué le sens de ce que j'avais vu sans comprendre.
Jean-François Kahn, dans ses mémoires très riches, on s'en doute, il y a un pays qui compte beaucoup, que vous avez suivi, c'est l'Algérie. Avant et juste après l'indépendance, vous avez été d'ailleurs correspondant à Alger, je vous propose d'écouter cet extrait sonore qui nous remet dans l'ambiance de cette époque.
Ici Évian, eh bien ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Évian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord les membres de la délégation algérienne sont repartis pour la frontière suisse. C'était leur dernier voyage, ils ne reviendront plus. La paix est signée dans quelques minutes. Monsieur Jacques va tenir une conférence de presse à l'hôtel du Perc à Évian. Je m'y rends tout de suite, je vous donne rendez-vous à 19h15 pour les détails supplémentaires.
La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France.
L'Algérie de l'OAS avant l'indépendance et l'Algérie d'après, vous l'avez vécu de près, hein, Jean-François Kahn.
C'est-à-dire, j'ai vécu donc la fin de la guerre d'Algérie et les 4 mois ou 5 mois entre les accords d'Évian et l'indépendance. Et à ce moment-là, l'OAS, c'est-à-dire les partisans durs de l'Algérie française, qui en gros étaient des fascistes, faut reconnaître, je les ai connus, c'était des gens plus que d'extrême droite.
Et les descriptions que vous faites dans le livre sont en disent long.
quasiment, ils se sont lancés dans une campagne. Ils avaient essayé de tuer le général de Gaulle. Mmh. C'est ceux qui avaient essayé de faire un coup d'État contre lui et tout ça. Et c'était terrible parce que simplement à Alger, il y avait 58 crimes politiques par jour. C'est pas une énorme ville, Alger. Et je vais vous donner à quel point. Quand je suis arrivé, j'avais pas l'habitude. J'entends une grande explosion. Je me précipite, c'est sur les docks d'Alger, me précipite. Les autres étaient tellement habitués aux explosions, c'était tous les jours 50 explosions, qu'ils ne s'étaient pas précipités, je me précipite. J'ai appris après que François de Closet aussi était là, je ne savais pas, mais il me l'a dit. Et c'est une voiture piégée qui avait explosé sur les docks d'Alger, à l'endroit où de l'engagement des dockers. 60 morts. Sur une toute petite espace, 60 morts, c'est horrible, 60 cadavres déchiquetés sur une petite espace et tout. En plus, j'ai failli, comme j'étais le premier ou sinon le seul Européen là, des Algériens m'ont sauté dessus, ils ont commencé à vouloir me tabasser et tout, et c'est des militants FLN qui m'ont arraché de leurs mains et qui m'ont emmené dans un quartier qu'ils contrôlaient. Et là, j'ai pas pu écrire l'article parce que je tremblais tellement que je pouvais pas écrire. J'arrivais pas à écrire avec le stylo. Bon, enfin, j'avais vécu ça. Or, un mois et demi après, ou deux mois après, je me promène avec un journaliste anglais. Alors, c'est un journaliste anglais très particulier, parce que quand il avait une émotion forte, il chantait tout de suite une chanson française, d'ailleurs, qui était « Ne reviens jamais, horrible tango ». Je vois pourquoi. Donc, vous voyez, il y avait une émotion forte, et tout à coup, « Ne reviens jamais, horrible tango ». Et alors, on se balade sur la rue principale. Il y a un Algérien qui vient, un musulman qui vient à notre rencontre, ce qui était incroyable parce qu'ils étaient tous tués quand ils allaient dans les quartiers européens. Il vient et tout près au moment où il arrive vers nous, un type le dépasse, paf, une balle dans la tête, il tombe. Et on l'a contourné et on a continué à discuter. Puis tout à coup on s'est arrêté au bout de... Et on a dit mais c'est incroyable, comment on peut en être arrivé là ? Mais on en était arrivé. Et naturellement, il s'est mis à chanter « Ne reviens jamais, horrible tango ». Ouais. C'était, en deux mois, on avait intégré comme une normalité un crime qui se passait là, sous nos yeux.
Alors, nous ne pouvons qu'évoquer certains passages de ces souvenirs. Il faut vraiment lire ce livre, Jean-François Ekahn. Vous vous êtes beaucoup intéressé aussi à la vie politique française, et notamment à cette année 1965. D'abord parce qu'il y avait une élection présidentielle, et on parlera d'une autre raison. On va peut-être d'ailleurs en parler tout de suite. C'est 1965, c'est l'enlèvement de Ben Barka que vous avez suivi de très près pour l'Express. Parce vous avez mené l'enquête avec Jacques de Rogy.
Quand j'étais j'ai été toujours à Alger indépendante, dans l'Algérie indépendante, pour le journal Le Monde. Or, l'Algérie indépendante, Alger dans l'Algérie indépendante, vous pouvez pas imaginer ce que c'était. Tous les révolutionnaires du monde entier étaient là. Alors d'abord, on avait toutes les tendances trotskistes françaises. Je peux vous dire que c'était pas un cochon. Un peu. et tous les révolutionnaires du monde entier. Et en particulier les mouvements de libération nationale. Qui maintenant sont au pouvoir. Tous ces gens qui sont au pouvoir. Mais à l'époque, c'était des rebelles, ils étaient là. Et comme je voulais absolument prendre, ça faisait partie de mon boulot aussi, de prendre contact, je demande au coordinateur de toutes ces mouvances, qui s'appelait Ben Barka, de m'organiser un déjeuner avec les représentants de ces mouvements de libération nationale et d'autres. Donc il m'organise un déjeuner, on est 11 ou 12, je crois. Bon, très bien. Alors naturellement, je me souviens plus du tout de ce qu'on a dit, comme je...
Ça va de soi.
Je me souviens de leur tête, leur ton de leur voix, tout ce que vous voulez, mais je ne sais pas ce qu'on a dit. Et un an après, je suis à l'Express. Et le téléscripteur, à un moment, sonne, j'y vais, et je vois Ben Barka a été enlevé.
Alors, enlèvement en plein Paris en 1965.
Voilà. Et tout à coup, ça fait clic dans ma tête, et tous les 12 personnes qui étaient dans autour de cette table étaient morts de mort violente, avaient été empoisonnés, fusillés, pendus, pratiquement tous, sauf Ben Barka et moi. Et là, Ben Barka, à son tour. Bon, et ça m'a motivé, j'ai dit, je veux savoir. Alors, je me suis adressé à Jacques de Rogy, un grand reporter, et on s'est mis en chasse, et on a voulu savoir, et on a su, finalement.
C'est-à-dire, il faut rappeler, hein,
C'est-à-dire la responsabilité directe du ministre de l'Intérieur marocain, le général Oufkir. La responsabilité d'Oufkir dans le meurtre, dans l'assassinat de Ben Barka.
Jean-François Kahn, 1965 est importante aussi parce qu'il y a une élection présidentielle et c'est le ballotage de Charles de Gaulle. Ça, c'est une époque que vous avez vécue aussi, de très près.
Ouais, parce qu'on s'attendait pas au début à ce ballotage. Non, ce qui était intéressant, c'est que J'étais à l'Express, et l'Express était très engagé, mais eux, leur idée, c'est la droite, c'est De Gaulle, enfin, il y a De Gaulle, c'est la droite, et l'autre côté, c'est la gauche dominée par les communistes, qui était vrai d'ailleurs. Donc, au milieu, c'est le centre. Bon. Et ils soutenaient, ils avaient déjà dévié par rapport à la ligne Madès, qui était une ligne de gauche.
Oui, qui était la ligne d'origine, mais ça avait évolué avec Jean-Jacques Chirac.
Et donc, eux, ils s'étaient convertis à un centrisme, à sa façon. Donc, puisque c'était le centre, on va soutenir un centre contre De Gaulle et contre la gauche. Sauf que De Gaulle, c'était pas la droite. C'était une erreur d'analyse totale. En vérité, De Gaulle, au meilleur sens du terme, c'était le centre. Et ce que eux considéraient comme le centre, c'était la droite, en vérité. C'était la vraie droite. Et donc, il y a eu un désaccord total entre nous, avec De Roger et moi, d'ailleurs, et Sermon Schreiber. Et alors, on s'est opposé à ça. Et du coup, on a enquêté sur cette campagne électorale. On a vraiment enquêté sur tout, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était la première tentative, mais mal foutue, et passant sur une erreur, de ce qui va réussir 40 ans plus tard, qui est Macron, en fait.
Alors, vous avez des pages savoureuses sur Malraux, par exemple, dans le discours de Malraux en 65, de soutien à De Gaulle avant le second tour. Il y a plein de pépites dans ce livre, mais il ne s'agit dans cette émission que d'évoquer. Il y a une autre année importante, par exemple, c'est 1968, avec des événements, comme on disait, la révolution, entre guillemets, de 68, que vous avez suivi de bout en bout.
Oui, d'abord parce que la direction de l'Express était... une nouvelle direction, enfin il y avait toujours Sermon Schreiber, mais il y avait une nouvelle direction, Claude Imbert et Georges Schuffert qui vont créer Le Point, qui était très pompidolien, qui était pro-pompidou. Il croyait pas du tout à ces événements, il ne le prenait pas du tout au sérieux. Donc ils m'ont découvert, j'ai couvert depuis le premier jour, ces événements, et j'essayais de leur dire, mais il se passe quelque chose. Parce que avant j'avais couvert des manifestations, par exemple celle de Charonne où il y a eu 9 morts, celle des Algériens de 61 où il y a eu sans doute 50 morts, et j'avais vu des manifestants passifs qui se faisaient taper par la police. Et là, pour la première fois, je vois des manifestants qui contre-attaquent contre la police. Ils disent, il se passe quelque chose. Mais ils étaient totalement insensibles à ça. Et j'ai couvert, entre autres, jusqu'à la journée des barricades, enfin la fameuse journée des barricades rue Gay-Lussac. Et là, j'ai été blessé par une grenade qui m'a ouvert le pied. Donc on m'a recousu ça en vitesse. Et quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai voulu faire mon article. C'était compliqué parce que c'était la nuit. Heureusement, j'ai vu un type qui était à son balcon. J'ai fait signe, j'ai dit, vous n'avez pas un téléphone, etc. Il me dit, oui, montez, je vais, hein, je prends le téléphone, j'appelle l'Express. Tout le monde est rentré chez soi, le journal est fermé. J'avais pris ça pour... parce qu'ils n'y croyaient pas du tout. Et on m'a envoyé à Prague, quasiment à cloche-pied.
C'est ça, alors c'est intéressant.
Et c'est formidable parce que vous avez pu comparer la même chose en sens inverse.
C'est ça, exactement.
C'est-à-dire là, je sortais d'une révolution où on brandissait des drapeaux rouges, et là, tout à coup, je tombe sur une révolution où ils déchirent les drapeaux rouges. Ouais. C'était vraiment curieux. Alors il y en a qui ont théorisé que c'est la même chose. Mais ça se discute.
Alors on peut trouver quelques-uns de vos articles sur le site de l'Express, c'est ce qu'on a fait. Et on retrouve des articles que vous avez rédigés en 1968 sur ces jeunesses différentes qui se révoltaient dans le monde. Et 1968, c'est aussi, pas seulement cette année-là, la guerre du Vietnam que vous avez couverte aussi en tant que reporter. Et je vous propose d'écouter une autre évocation sonore qui va sans doute vous rappeler des souvenirs de Jean-François Kahn.
Il est midi 15. La compagnie Alpha a avancé d'environ 500 mètres depuis ce matin. Elle a avancé extrêmement lentement, extrêmement prudemment, fouillant avec soin tous les taillis, tous les fossés. Et nous sommes arrêtés maintenant dans un grand champ en friche, appuyé au mur d'une maison détruite, car toute cette région a été évacuée par ses occupants. C'est un grand champ en friche, on entend les oiseaux qui chantent, chacun s'est mis à l'ombre, a ouvert ses boîtes de rations, posé son casque, et ce n'est pas un des moindres paradoxes de cette guerre, que de voir que cette opération de combat a des allures de pique-nique.
Jean-François Gann, vous avez fait le même
reportage. C'est vrai. Bah, c'est surtout que les combattants américains, on n'imagine pas, sont des combattants de luxe incroyable. Alors, ils ont un casque, déjà, et attaché au casque, ils ont un nombre de parfums, de trucs anti-rasage, de trucs de pour se parfumer, pour d'autres colloques.
la logistique américaine n'est plus avancée.
Autour du casque. Et au moment du repas, vous avez des conserves, mais des conserves incroyables. Le poulet au curry, vachement bon, des trucs, c'est délicieux. Et je me souviendrai toujours que là, c'était au Cambodge, je rencontre un Viet Cong qui se reposait au Cambodge, qui était parti du front, il se reposait au Cambodge. Et ce Viet Cong, il me racontait qu'à un moment, il y a eu une opération américaine là où il était, par hélicoptère, ils sont arrivés, les soldats américains. Moi, j'ai participé à une opération comme ça. Et lui était dans un trou, était caché dans un trou. Ils l'ont pas vu. Lui, il voyait, mais ils l'ont pas vu. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les soldats américains à un moment qui sont tous foutus à poil. Puis tous les hélicoptères sont arrivés, qui l'ont envoyé du savon. Ils s'en avaient avec le savon. Et ensuite, d'autres hélicoptères sont arrivés et les ont douchés pour nettoyer le savon et tout. Et lui, il en riait encore. Et je voyais qu'il allait toute sa vie le raconter à ses petits-enfants, quoi, d'avoir vu ça.
Alors, votre vie, Jean-François Kahn, est une vie de rencontres, naturellement, à partir de tous ces reportages que vous avez faits pour Paris Presse, pour L'Express, pour Europe 1, pour les nouvelles littéraires. Il faut dire un mot quand même des nouvelles littéraires. Vous êtes un beau jour retrouvé aux nouvelles littéraires, qui était une vénérable institution, avec le grand Philippe Tesson, et vous avez essayé de dépoussiérer un peu.
Ah bah, c'est ce que je fais de plus, dans toute ma vie, c'est ce que je fais de plus étonnant, parce que, je prends la direction des nouvelles littéraires, j'avais beaucoup hésité, et je m'aperçois que la diffusion est de 1500 exemplaires. Puis en plus, ça s'appelait littéraire, tous les journaux littéraires avaient disparu, hein. C'était le dernier, 1500 exemplaires. J'ai dit, je vais en faire un journal généraliste.
Là, nous sommes dans les années 80, hein, on a avancé un petit peu dans le temps.
Mais à partir de la culture, c'est-à-dire les journaux généralistes vont de l'actualité à la culture. Moi, je vais aller de la culture à l'actualité. À partir de la culture, on va. Mais avec une équipe de cultureux. Et finalement, on l'a mené à 70 000 exemplaires. De 1500 à 70 000 exemplaires, est-ce que vous imaginez le pourcentage d'augmentation de tirage? Ah, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Et là, vous avez des pages sur le journalisme encore, sur le comment parler culture.
Oui, un grand public. Mais on parlait de tout.
Parce que vous dites qu'il y avait des journalistes qui s'intéressaient qu'à des journalistes de littérature qui ne s'intéressaient qu'aux livres dont on savait qu'ils n'allaient pas se vendre à plus de 500 exemplaires.
Ah non, mais moi, par exemple, quand il y a eu la campagne électorale de 81, il y avait le spécialiste de l'opéra, c'est Alain Duhaut d'ailleurs, qui est toujours spécialiste de l'opéra. J'ai dit, tu couvres Raymond Barre. Donc il couvre Raymond Barre et il dit, tu le couvres comme si c'était un opéra. Donc il parlait Raymond Barre dans les aigus, dans les graves, comment on fait, etc. Il y avait Combesco, qui était journaliste, qui a eu le prix Goncourt d'ailleurs. Et je lui ai demandé de couvrir Chirac, etc. Qu'il appelait Chichi et qu'il le décrivait comme si c'était un ballet, etc., etc. Ouais, il y en a que j'ai envoyé en Pologne, au moment des événements de Pologne. Alors j'ai engagé aussi quelques journalistes généralistes, mais dans l'ensemble, ces journalistes culturels, je les ai métamorphosés en journalistes tout terrain.
Alors ça, c'était le Jean-François Kahn qui commençait à avoir cette logique qu'on a vu après se développer dans l'événement du jeudi et dans Marianne. Ça fera l'objet du second tome de vos mémoires. On en reparlera le moment venu. Mais parlons d'Europe 1. Vous avez un jour décidé de faire de la radio et là, vous avez changé un petit peu de méthode de travail.
C'est vrai, ils m'ont viré de l'Express déjà. Donc j'ai été beaucoup aidé par ça. Le fait qu'on m'ait beaucoup viré ou que j'ai démissionné m'a permis de faire la radio, de la télé, de créer des journaux et tout. Sans quoi, vous rendez compte, on m'aurait jamais viré ou je serais jamais parti. Je serais devenu alcoolique dans un journal où je serais resté 60 ans.
C'est pas vraiment le cas, Jean-François Kahn. Mais Europe 1, vous expliquez très bien que vous avez dû réapprendre en quelque sorte à écrire, à parler.
C'est-à-dire, j'ai inventé quelque chose. La première fois que j'ai fait une éditoriale, au début c'était une éditoriale tous les jours, c'était très mauvais. Je lisais un texte avec le truc. Donc je me suis tout de suite aperçu que c'était très mauvais et j'ai tout de suite compris qu'on pouvait pas faire comme ça. Mais vous avez dit, tout le monde faisait comme ça. Si vous réécoutez les éditoriaux de l'époque, c'est vraiment lu. Et donc j'ai essayé de faire une écriture où j'écrivais quelque chose qui se dit. D'ailleurs, d'abord, je le disais comme si c'était improvisé, y compris avec des hésitations, y compris avec des blancs, y compris en fait ça, de telle façon de reconstituer quelque chose qui n'est pas du tout lu et écrit, mais dit et écrit pour être dit. Et je crois que c'est ça qui a fait le succès de l'éditorial. Dans un deuxième temps, ils m'ont confié du coup tout le journal et l'éditorial. Et là aussi, on a inventé, avec un type qui s'appelait Olivier Draxin, on a inventé un journal très vif, comme un dialogue de théâtre, où on rigolait, on faisait des blagues, etc. et tout. Et à la fin, j'ai même choisi la musique qui suivait. Là. Et c'est la première fois que j'étais victime d'une censure. Là, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, attendez, vous mettez du Léo Ferré, du Gainsbourg, du Mozart. Non, ça va pas. Ça crée une défiance pour le reste de l'antenne.
Oui, parce que c'était pas tout à fait la couleur musicale, comme on dit aujourd'hui, voilà. Du reste de la journée. Mais on sent que vous avez pris un grand plaisir à faire de la radio.
Ah oui, j'ai beaucoup aimé. D'abord, c'est souple. La télé, c'est lourd, par exemple. C'est terrible. Moi, j'ai fini pendant 3 ans, j'ai fait une émission de variété. J'en garderai très bon souvenir à la télé, mais c'est comme si vous montiez une pièce de théâtre ou une opérette à chaque fois. C'est très lourd. Là, c'est tellement, tellement agile, tellement facile. Moi, j'ai beaucoup aimé faire de la radio.
Avec tambour. Et trompette. Bonjour. Je vous ai souvent dit que les hommes politiques, les journalistes et commentateurs devraient prêter beaucoup plus d'attention à ce que l'on chante, à ce que la jeunesse particulièrement chante. Et justement aujourd'hui, je voudrais confronter un certain nombre de dirigeants politiques de notre pays, à ce que chante, à ce que dit la jeune génération de nos chanteurs-compositeurs.
Tout est sale, 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 dans ton journal, tellement sale, ça te laisse des traces sur les doigts. Tout est moche, 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 mais tu t'en laves les mains et tu les mets dans tes poches. Ça vient de si loin, 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 toutes ces images qu'on t'envoie. Toute cette misère par satellite, ça va mal, mal, mal. Mais tu t'en fiches pas mal. Toi, 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 tu penses qu'à toi. Je, tu sais dire que ça t'est qu'un égoman. Un égo, égoman, égo, égo, égo.
Idée. Jean-François Kahn, nous venons d'écouter un extrait de votre émission Avec tambour et trompette, émission que vous avez proposée pendant des années sur France Inter, car vous avez fait de la radio aussi avec la chanson et pas seulement avec l'information sur Europe 1. Cette émission Avec tambour et trompette était dédiée à la chanson, à la chansonnette, et vous vouliez à l'époque, et c'est toujours une démarche actuelle, traduire en quelque sorte l'air du temps avec la chanson.
Parce que j'ai de formation, j'étais historien, enfin d'intérêt et de formation, et j'ai toujours aperçu de qu'est-ce que c'est que les documents pour reconstituer une période historique, surtout si c'est on remonte à 2 siècles ou 3 siècles, ou même aujourd'hui. Les documents, c'est quoi? Si vous avez les rapports des gouverneurs sous Louis XIV, vous croyez qu'ils disent la vérité? Vous croyez qu'ils disent que le peuple est extrêmement mécontent? Pas du tout, jamais. Les préfets aujourd'hui, vous croyez qu'ils disent vous à Giscard? Moi, j'ai fait je me souviens sous Giscard, aucun préfet ne lui a dit qu'il allait être battu. Il a été battu. En revanche, les chansons disent, les chansons que le peuple chante disent des choses que les, et donc c'est ça qui m'a emmené à m'intéresser beaucoup à la chanson, parce que la chanson dit beaucoup sur l'évolution d'une époque.
La chansonnette, ce qu'on appelle la chansonnette.
Ce qu'on appelle la chansonnette. Ouais. Alors après, moi, j'ai le goût pour l'opéra. J'ai un goût pour l'opérette pour une autre raison. C'est que c'est un art français où dans le meilleur, tout le génie français s'y exprime. L'humour, la culture, la légèreté, etc. C'est pour ça que je me suis toujours battu pour qu'on réhabilite l'opérette. Mais la chanson, c'est pour la raison que je viens de vous dire.
Alors, il y a d'autres anecdotes liées à la chanson. Vous nous expliquez, par exemple, qu'en 1958, c'est ça, vous étiez dans un sanatorium et vous faites venir le jeune Jacques Brel.
Non, parce que j'étais... J'étais dans un sanatorium. Entre parenthèses, je suis resté un an. J'ai lu pendant un an. Ça m'a fait. D'abord, j'ai pas fait de service militaire et j'ai lu pendant un an. Ça m'a fait gagner 4 ans de ma vie, hein, je peux vous dire. Ils m'élisent délégué aux distractions. Et arrive Noël. Ils avaient une hantise, c'est que le Noël d'avant, on leur avait fait revenir des barres de Bretons. Je peux vous dire, pour eux, c'était l'horreur. Ils voulaient plus voir de barres de Bretons. J'ai dit, qu'est-ce que je peux leur faire pour Noël? Et j'avais écouté une chanson à la radio, dynamique comme tout, qui disait « au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc ». Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Je dis, c'est vachement bien, ça, c'est vrai. Je n'ai pas très bien reconnu le nom. Or, il y avait dans l'étage des filles, il y avait une fille dont je savais qu'elle avait travaillé dans la variété. Je vais la voir, et je dis, voilà, tu pourrais peut-être m'aider, il paraît que tu es un peu dans la variété. J'ai un type qui chante ça, je trouve ça formidable. Elle me dit, mais je le connais très, très bien. Il s'appelle Jacques Brel. J'ai dit, je vais l'appeler. Donc, elle me donne son numéro de téléphone et tout. Je l'appelle. Et je lui dis, vous savez, on est des jeunes étudiants, malades. On aimerait bien, pour Noël, avoir quelque chose. Il se trouve qu'on vous aime beaucoup. C'était un mensonge. On ne le connaissait pas. Mais enfin.
C'est toujours mieux de présenter les choses comme
Est-ce
ça.
Est-ce que vous pouvez, j'ose nous faire un spectacle? Finalement, il accepte. Mais il n'avait jamais fait de spectacle. Il allait dans des cabarets où il faisait 2 chansons. Il n'avait jamais fait un spectacle. Et donc, c'est sans doute la première fois qu'il fait un spectacle de 12 chansons. Donc, le hasard fait que j'ai organisé le premier récital Brel, sans doute.
Mais c'est incroyable quand on vous écoute, Jean-François Kahn, on se dit mais que vous avez une curiosité tous azimuts, depuis toujours. En fait.
C'est une impression. C'est parce que ce qui ne m'intéresse pas ou ce sur quoi je ne connais rien, je n'en parle pas. Donc, c'est ça qui vous donne l'impression que j'ai une curiosité tous azimuts.
Merci Jean-François Kahn. Le premier tome de vos souvenirs, qui est à lire absolument, s'intitule « Mémoire d'outre-vie », tome 1, donc sous-titré « Je me retourne sidéré ». Ce livre est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu.
Moi qui vous remercie.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.
Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant. Toutes les filles vous donneront leurs baisers, puis tous leurs espoirs. Vois tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir. Tout Paris se changera en...
RFI, la sélection du mois.